avec cette question, Seigneur, qui suis-je devant toi, quelque part? Et dans Jean 6, au verset 37, il est dit, « Je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. » C'est une assurance. C'est quelque chose que j'ai très profondément dans mon cœur par rapport à la société dans laquelle nous sommes. Il y a tellement de choses, tellement de possibilités de passer à côté de la vérité. Que Dieu aujourd'hui, au travers de vous, au travers de nous, désire une seule chose, annoncer l'Évangile. Cet Évangile de paix, cet Évangile qui est là pour changer des vies, cet Évangile qui est là pour annoncer la bonne nouvelle. Je ne sais pas pourquoi je suis là ce matin. Avec ce que nous avons chanté, avec ce que nous avons prié, avec votre adoration au travers des chants, merci au groupe de louanges. Il n'y a plus rien à dire. Tout est dit. Tout est là. Nous avons tout devant nous. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que dans la préparation de ce que nous allons partager, il y a comme un envoi. Et ce matin, vous vous êtes levé. Il n'y a plus qu'à vous retourner et partir. Partir dans ce champ de mission qu'est notre ville, qu'est votre quartier, qu'est votre maison, peut-être dans votre bloc locatif, peut-être au travers de vos voisins de travail. Je crois vraiment que Dieu a en espérance ce qu'il a déposé en chacun d'entre nous, afin que nous allions, et que nous apportions cette bonne nouvelle de vie. Lors de nos dernières rencontres, nous avons conversé avec Dieu, et avec un Dieu qui désire nous faire avancer, nous faire découvrir ou redécouvrir sa fidélité au travers de sa sainteté et au travers de son caractère. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Et c'est pour cette raison qu'il se permet de nous reprendre certaines fois et de nous exhorter à la sainteté. Une fois que nous avons compris le contenu de son message et mis en pratique son enseignement, son amour le conduit à aller plus loin avec nous. C'est comme s'il nous disait, si tu désires en savoir plus, mets en pratique ce que tu sais déjà. Je me permets de le répéter. Si tu veux en savoir plus, si tu désires aller plus loin, mets en pratique le bon dépôt que j'ai mis dans ton cœur. Nous croyons en tant que chrétiens que de connaître la parole de Dieu, d'en apprendre les versets par cœur, d'en apprendre certaines références par cœur, c'est bien. Et d'en savoir beaucoup, c'est mieux. Mais ce que Jésus nous demande, c'est de vivre ce que l'on sait. Et cela nous affermit. Si nous désirons aller plus loin, pratiquons davantage ce que Dieu nous a déjà appris. Et peut-être ce que nous savons et que nous avons enfoui, prétextant toutes sortes d'excuses. Et là, on est fort. Il est bon de désirer progresser et d'attendre le feu vert du Père Céleste, d'où vient toute grâce excellente et tout don parfait. mais il est aussi nécessaire de passer à l'action et d'appliquer les leçons reçues. Ce matin, au travers des versets, c'est une vie de prédication qui a passé devant nous et que nous avons chantée. Jésus dit au paralytique dans Jean 5 au verset 8, « Prends ton lit et va te coucher. » Non. « Prends ton lit et marche. » Alors aujourd'hui, je désire avec vous faire un pas de plus. Ne pas seulement se contenter d'exprimer nos demandes à Dieu, mais de mettre des jambes à nos prières. Je rencontre souvent des chrétiens qui sont recto verso, c'est-à-dire qui ne sont pas les mêmes la semaine ou dimanche. Chaque semaine compte 168 heures. J'ai fait un rapide calcul. Et dans une semaine, combien de temps consacrons-nous à notre Dieu ? Je ne vous connais pas, mais là, nous allons passer 2 heures ensemble avec notre Dieu. Que faisons-nous du reste de notre temps ? Il y a une chose que Dieu en abomination, c'est l'hypocrisie. Soyons vrais. Soyons authentiques. Dans l'Ancien Testament, il en est déjà parlé. Dans Ésaïe, je vous lis un verset. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un prétexte de traditions humaines. Non, ce que Dieu aime, c'est la droiture, c'est d'être vrai devant lui. Je vous rappelle à titre indicatif que c'est le seul qui connaît nos cœurs. C'est le seul qui sonde nos cœurs. Dans Amos, encore un livre de la Bible, 5 au verset 24, « Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. » Dans ce verset, il est parlé d'eau, mais pas d'une eau stagnante, mais d'une eau courante, comme un torrent. Alors, quelle attitude avons-nous lorsque nous nous présentons devant Dieu ? Alors, je vois quelques opportunités et quelques pistes qui nous conduiront à découvrir ce qui est agréable et ce qui plaît à Dieu. Dans Jacques 4, au verset 8, il est dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Et dans Hébreux 10, au verset 22, approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ce sont des signes visibles et concrets qui nous ouvrent à rencontrer Dieu, à peut-être le redécouvrir tel qu'il est. Et je vous assure, c'est passionnant et c'est pas difficile. Premièrement, s'il est nécessaire de nettoyer nos mains, de se purifier, c'est-à-dire de demander pardon, n'hésitons pas et faisons-le. Dans Jean 1, verset 9, il est dit, dans 1 Jean 1, au verset 9, il est dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Entre parenthèses, vous avez le droit de participer. Et il est là aussi pour nous purifier de toute iniquité. Faisons-le, car ainsi Dieu sera sensible, comme un père l'est, lorsque son enfant vient à lui. Plus loin dans Éphésiens 5 au verset 10, exprimez ce qui est agréable au Seigneur. Souvenons-nous un instant de la parabole du fils prodigue. Prenons le temps de chercher ce que Jésus veut dire. Le fils cadet a été jusqu'au bout de ce qu'il a décidé un jour dans son cœur. Il n'a rien écouté d'autre qu'une vision éventuelle du futur, d'une vie nouvelle, d'une vie différente. Mais quand il s'est retrouvé face à face avec lui-même, c'est à ce moment-là qu'il a eu comme un arrêt sur image et qu'il s'est posé des questions. Nous avons deux sortes de questions que nous pourrions nous poser à sa place. La première réflexion qu'il a pu avoir. Ben, j'ai plus grand. Pas de problème. Mon père, il est riche. Il a de l'argent. Je vous rappelle que je suis son fils. Donc, jamais il va me refuser de rentrer à la maison et il va remplir mes poches puisque c'est mon papa. C'est une réflexion que nous pourrions avoir et que beaucoup de personnes ont aujourd'hui face à la sainteté de Dieu. Mais dans l'histoire, il est parlé d'une autre attitude. D'une attitude vraie par rapport à son cœur. J'ai quitté la maison. J'ai vilipendé mon capital. J'ai triché. Je ne suis vraiment pas digne de cette filiation. Mais dans son amour, mon père acceptera-t-il de me prendre comme simple serviteur? Jésus n'a pas donné l'âge du fils cadet, ni l'âge du fils aîné. Donc, il n'y a pas d'âge pour revenir au Seigneur. Que nous soyons aînés, que nous soyons jeunes, il y a à chaque instant une parole de Dieu pour nous. Car Dieu regarde au cœur. Et nous pouvons être assurés que notre droiture intérieure lui plaît et que notre retour touche son cœur de papa. Par contre, Satan, lui, l'ennemi de nos âmes, il ne va pas reconnaître ce que nous sommes en réalité devant Dieu. Mais il va essayer de nous surprendre en flagrant délit. Et se fera un malin plaisir de nous dissuader de revenir à Dieu. prétextant lui aussi toutes sortes d'impuretés, toutes sortes d'impossibilités, nous mettant dans la culpabilité, etc., etc. Mais, souvenez-vous de ce mais. Mais Dieu est là, sur le pas de la porte. Comme dans la parole du fils prodigue. Et en nous voyant venir ou revenir, même de loin, croyant à notre sincérité, il viendra. Non. Il courra à notre rencontre et il nous dira: je me suis tenu à la porte et j'ai frappé. Tu as entendu et tu as ouvert. Maintenant, j'entre chez toi. Je m'assieds à ta table. Je partage ton repas, toi avec moi et moi avec toi. Deuxièmement, Dieu ne va pas nous faire un procès, ni connaître notre emploi du temps durant ce temps de séparation. Non, non. Il va ouvrir une nouvelle page. Et quel témoignage avons-nous ? Toujours dans l'histoire de l'enfant prodigue, il va nous revêtir d'une nouvelle robe. Il va nous donner l'anneau de la filiation. Il va se réjouir avec nous. Avec notre esprit humain, notre esprit rationnel et notre mode de réflexion, s'appuyant plutôt sur ce que nous voyons que sur ce que nous croyons, nous avons un jour ou l'autre passé par ces moments de solitude, écrasés par le remords ou la culpabilité. Mais, à nouveau reprenant la parole de Dieu à témoin, Dieu ne brisera jamais le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. C'est Jésus qui parle dans l'évangile de Matthieu. Une autre image dans la parole de Dieu, c'est l'histoire d'Élie. Élie le prophète. Élie le prophète qui vient de vivre des choses extraordinaires. Dieu ne l'a pas laissé tomber dans la dépression. Mais Élie, habitué à dialoguer avec son Dieu, il a reconnu l'appel de Dieu. Et il a accepté de marcher 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire simplifier sans s'arrêter. Jusqu'à se retrouver devant Dieu. Et où était Dieu ? Était-il dans le tonnerre ? Non. Était-il dans la foudre ? Non. Était-il dans un vent violent ? Non. Il était dans un doux murmure. Vous vous rendez compte ? La différence avec le bruit de notre monde aujourd'hui et le doux murmure demandé par Dieu et proposé par sa sainteté. Pour pouvoir vivre ce doux murmure, je plaisante, faut-il avoir des Walkman dans les oreilles ? Faut-il avoir un casque ? Aujourd'hui, ils sont tous plus grands. Pour écouter de la musique fort, essayant au travers de ce bruit de trouver un petit chemin le dimanche matin. Non. C'est dans le calme et le repos que sera notre salut. C'est à nous de répondre à cette voix divine. Quoi qu'il en coûte dans notre fort intérieur, que la parole de Dieu soit claire pour nous. Elle nous révèle une parole extraordinaire, remplie de sens. Selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu désire une chose avant tout, c'est changer notre mode de vie, notre structure de vie, en quelque sorte, notre mentalité. Troisièmement, la Bible est une histoire d'héritage. Et un héritage est lié en général à un testament. Et un testament, c'est quoi? C'est un message ultime qu'une personne tient à transmettre à la postérité. Je pense que vous connaissez tous votre Bible. Combien y a-t-il de testaments? 2. Merci. Je vois par là que vous êtes encore avec moi. Il y a l'ancien qui ne nous parle pas d'héritage, mais au travers de toutes les histoires relatées, il nous parle du peuple de Dieu. Il nous parle de prescriptions, de lois, d'exemples de vie, de soumission, mais pas de transmission. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'héritier? Pascal a dit, l'Ancien Testament contient les figures d'une joie future. L'héritier, il vient dans le Nouveau Testament, en Matthieu 3 au verset 17. Souvenez-vous, lorsque Jésus sort des eaux du baptême, une voix du ciel se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est Dieu qui parle de son fils Jésus-Christ. Et plus loin, lorsqu'il se retrouve avec ses disciples, la même voix se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Voilà deux paroles qui se suivent. Et c'est comme si Dieu désirait en rajouter un peu plus. Écoutez-le. Le testament n'est réalisable qu'au moment où Jésus, du haut de la croix, va dire « Tout est accompli. Tout est accompli. » Et c'est là que tout commence. Et c'est là que nous pouvons relire les évangiles. J'ai relevé trois termes importants. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne va au Père que par moi. Je dois m'en aller. Mais si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Tous ces versets sont contenus dans le Nouveau Testament, mais ne sont compréhensibles que de ceux qui acceptent cet héritage. Cette joie complète, parfaite. Et pour reprendre la citation de Pascal, la suite, le Nouveau Testament contient les moyens d'y arriver. Amen. Souvenez-vous du voile du temple lorsque Jésus rendit l'âme. il est dit qu'il se déchira du haut vers le bas, du ciel sur la terre. Dieu descend au milieu de nous, ouvre le voile pour nous permettre de vivre pleinement sur cette terre le royaume de Dieu à venir. Et l'assemblée dit amen. La croix redimensionne nos vies. Ce n'est plus Adam qui définit notre marche, mais c'est au travers de Jésus-Christ que nous vivons. Cette bonne nouvelle n'est bonne nouvelle que si nous nous incluons avec elle. L'héritier, Jésus-Christ, s'il était resté sur la croix, ne bénéficierait pas de cet héritage. Et donc, ce testament ne s'adresserait à aucun héritier. Mais l'héritier est ressuscité et la promesse de l'héritage est à partager avec ceux qui lui appartiennent. J'aimerais vous lire dans Tite, au chapitre 2, le verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de faire de nous un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Nous sommes donc co-héritiers. Et ce n'est pas de la théorie ou de la religion. C'est tangible. Nous pouvons le vivre. Et dans mon cœur, encore tant d'années à passer avec le Seigneur, je désire toujours plus vivre cet évangile. Si nous sommes co-héritiers, que ce n'est pas de la théorie ni de la religion, nous pouvons sortir des pages de la Bible d'une lecture passive. Nous pouvons partager, nous pouvons vivre et nous pouvons donner aux autres ce que nous avons reçu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous donne un exemple. L'autre jour, j'ai lu, comme chacun d'entre nous, les manchettes des journaux où il était écrit qu'un tel avait gagné à l'euro-million. Waouh ! Quelle bonne nouvelle ! Mais cette bonne nouvelle, elle est pour lui. Elle n'est pas pour moi. Parce que je n'ai pas été invité à partager cette masse d'argent. Par contre, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, elle est pour moi, elle est pour toi. Et aujourd'hui, tu peux la partager, tu peux la vivre. Et je vous assure qu'elle ne coûte rien, d'abord, et qu'elle rapporte beaucoup. C'est quand même extraordinaire de pouvoir vivre cela. J'ai une assurance. C'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, Dieu désire répandre de son esprit sur ceux qui le lui demandent. C'est-à-dire nous rendre capables de comprendre le contenu de cet héritage. Notre héritage. Pas celui d'un autre. Notre héritage. Nous sommes coparticipants de cet héritage. Imaginez-vous. Le jour où l'enveloppe se déchire, on sort le papier et on lit dessus « Tu es co-héritier ». Waouh ! Et pour ça, il faut être présent dans la salle. Sommes-nous présents aujourd'hui dans la salle du festin ? Où avons-nous chacun et chacune encore tant de choses à faire avant? On ne sait jamais. Dieu est bon, il ne va pas fermer les portes. J'ai encore juste le temps d'aller faire ceci, d'aller faire cela, et puis après, je viendrai. Tu es d'accord? Non. aujourd'hui, si tu entends sa voix, ne ferme pas ton cœur. Je n'aime pas beaucoup ce n'endurcis ça, n'endurcis pas. Mais ne ferme pas ton cœur. Dieu t'aime tel que tu es. Sommes-nous culpabilisés? Nous sentons-nous condamnés? Sentons-nous comme une chape de plomb sur notre vie? Sommes-nous ignorants de ce que ce testament contient? Alors Jésus, ce matin, nous pose cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Tout est accompli. Viens ou reviens à moi et je te donnerai cet héritage. Je te donnerai de participer au partage de mon héritage, c'est-à-dire la vie éternelle. L'Ancien Testament nous montre notre faute, mais le Nouveau Testament nous accorde le pardon. Quatrièmement, je suis dans une joie complète depuis le premier jour où je suis revenu dans votre petite assemblée. Et chaque fois que vous m'accueillez, c'est pour moi un baume sur mon cœur. Dieu a fait de vous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et l'assemblée dit
Amen.
Amen. C'est comme je vous l'ai annoncé au début de ce partage. Église de l'espoir. Église de l'espoir. Si tu désires en savoir plus, si tu désires aller plus loin, mets en pratique ce que tu sais déjà. Chacun d'entre nous, que nous soyons assis ou debout, nous avons un avenir devant nous. L'espoir d'un futur pour ceux qui se confient dans les promesses de la parole de Dieu. Dieu parle dans Jérémie. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je vous ai partagé ce que Dieu a mis sur mon cœur, ce que le Seigneur fait. Et ce qu'il fera dans la vie de celui qui est prêt, et comment Dieu désire nous enseigner quotidiennement. Pour terminer, souvenez-vous du prophète Néhémie. Dieu lui a parlé. Il est allé visiter Jérusalem. Et il a parlé aux membres du peuple réuni. Il leur a dit, je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et l'assemblée se leva et dit, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Dieu désire bâtir son Église avec des personnes vivantes. Alléluia. Restaurées et en pleine forme. Dieu désire nous guérir et nous rétablir. Si vous avez soif de plus, depuis votre place, dites-le simplement à Dieu. Et lui qui sonde les cœurs, lui qui connaît les cœurs, nous parlera, vous parlera et vous remplira de son esprit. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, je te loue pour ta bienveillance envers nous. Seigneur, je te loue pour ton esprit. Seigneur, je te loue pour ta présence au milieu de nous maintenant. Seigneur, tu es le Dieu des guérisons. Tu es le Dieu salvateur. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu qui donne la vie. Seigneur, merci. Merci de ce partage. Merci pour ton esprit. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que c'est un bon dépôt. Merci, Seigneur, parce que tu ne vas pas nous donner de repartir tel que nous sommes entrés, mais transformés par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour l'agissement que tu opères en nous. Merci, Seigneur, pour le vouloir et le faire que tu donnes à chacun de mes frères et sœurs. En ton nom, Jésus. Amen. Si après la fin de cette cérémonie, certains ou certaines désirent que nous puissions prier ensemble, partager quelque chose, je me tiens volontiers à votre disposition.